Mes chers amis, avec vous, je voudrais examiner aujourd'hui la valeur pratique du message évangélique. La question peut se poser comme suit. Peut-on, au XXe siècle, vivre selon des principes édictés au premier siècle de notre ère? Posée de cette façon, cette question risque de provoquer instinctivement beaucoup de réponses négatives. Car notre temps est à la révolution dans tous les domaines, même dans le domaine de la religion. Le ton est au progrès, aux conceptions nouvelles, à la remise à jour des anciennes normes et à la remise en question des vieux principes. Quelle place, je vous le demande, peut-on bien donner à des idées vieilles de 2000 ans dans notre société moderne? Examinons ce vieux texte. Lors de nos contacts précédents, nous avons souvent mis en relief le fait que la Bible se présente à l'homme comme la révélation d'un message venant de Dieu, un message dont l'homme avait besoin, car dans ses ténèbres, il vient lui révéler ses origines, sa véritable identité, ce qu'on attend de lui et quelle est sa destinée. La Bible se propose à l'homme comme le guide de son existence. Elle déclare sans embâge qu'il est incapable de diriger par lui-même sa propre vie. Il a besoin d'être éclairé et guidé par la parole de Dieu. Ceux qui pensent pouvoir se passer de ce message vouent leur vie à l'échec. Ils sont comme des bâtisseurs insensés qui construisent sur le sable, sans fondation. Ces affirmations de la Bible sont vraiment trop catégoriques pour n'être pas prises au sérieux. Lorsqu'on se donne la peine d'examiner la règle de conduite que le message de Christ propose à l'homme, on est surpris de constater qu'il ne s'agit pas de quelque philosophie abstraite ou d'une mielleuse et interminable homélie sur le thème de « aimez-vous les uns les autres », mais au contraire d'un regard clair, réaliste et pratique sur tous les aspects essentiels de l'existence. Il y est question de nos rapports avec les autorités gouvernementales, avec la société en général, de nos devoirs domestiques aussi. Des conseils et recommandations sont donnés aux parents, aux enfants, aux époux, aux patrons et ouvriers, etc., etc. L'objectif, l'intention, est de fournir à l'homme des principes qui l'aideront à se forger une attitude, la meilleure possible, pour faire face avec sagesse à toutes les circonstances qui forment comme le cadre de sa vie. Il est à souligner que la Bible n'est pas qu'un recueil de bons principes. Elle a d'abord pour but de faire connaître le Christ et le salut qu'il apporte par la rémission des péchés. Et c'est précisément à ceux qui l'ont déjà choisi pour sauveur et pour maître que s'adressent ses exhortations. Voyons quelle est la teneur de quelques-uns de ces textes. Tout d'abord, un extrait de la première lettre de Pierre. « Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. » L'apôtre Paul donne la même recommandation, mais d'une façon plus explicite encore. « Que chaque homme soit loyalement soumis au gouvernement du pays où il vit, qu'il lui obéisse et en reconnaisse de bonne grâce la légitimité, car tous ceux qui possèdent quelque autorité en ce monde la détiennent de Dieu et l'exercent sous son contrôle. Donc, celui qui met l'autorité de ses gouvernants en doute et qui s'insurge contre eux, se révolte en fait contre l'ordre établi par Dieu. Une telle opposition ne saurait qu'attirer le jugement de Dieu. Que ces récalcitrants ne s'étonnent donc pas s'ils encourent la juste punition de leur rébellion. Ceux qui font le bien n'ont rien à redouter des magistrats. Ceux-ci n'inspirent la crainte qu'aux malfaiteurs. Tu veux vivre libre de la peur des autorités ? Agis bien et tu jouiras de leur considération. L'État sert Dieu de cette manière, en t'encourageant à une vie correcte. Il ne veut que ton bien, et tu bénéficies de ses services. Évidemment, si tu veux commettre de mauvaises actions, tu trembles avec raison, car l'État est en droit de te punir. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis un glaive aux mains du magistrat. En sanctionnant les infractions à la loi, il sert les intentions de Dieu et manifeste la colère divine à ceux qui font le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis à l'autorité de l'État, non seulement par peur de la colère ou des châtiments, mais par conviction et devoir de conscience. C'est pour ces mêmes raisons que vous devez payer vos impôts. Le percepteur aussi sert Dieu et agit en son nom dans l'exercice de ses fonctions, car en s'acquittant consciencieusement de leur office, les fonctionnaires accomplissent la volonté de Dieu. Rendez donc à chacun son dû, les impôts à qui est en droit de les exiger, les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. En filigrane, dans ce texte, nous percevons cette formule célèbre du Christ. rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. L'État n'est pas d'essence divine, il faut le souligner. Il est seulement voulu par Dieu comme une réalité provisoire. Dieu se sert de lui aussi longtemps que continue ce monde présent. C'est pourquoi, comme chrétiens, nous n'avons pas à le combattre en tant qu'institution, mais à admettre son existence et à l'aider à bien fonctionner. N'oublions pas que l'État auquel l'apôtre Paul fait allusion est l'État de Néron, qui exigera de la part des chrétiens plus qu'il ne lui appartient. Par sa propre arrestation et sa condamnation, l'apôtre Paul a montré qu'il savait où s'arrête la soumission que le chrétien doit à l'État. Dans le domaine social, les textes sont également très abondants. Employés, obéissez à vos patrons d'ici-bas, avec respect et avec le sens de vos responsabilités, dans l'humilité et la droiture de votre cœur. Soyez soumis même à ceux qui sont d'un caractère difficile, ajoute l'apôtre Pierre. Faites-le comme si vous vous trouviez au service du Seigneur lui-même. N'accomplissez pas votre tâche superficiellement ou seulement quand on vous observe. Pour faire bonne impression, il ne s'agit pas simplement de plaire aux hommes et de conquérir leur faveur, mais de se savoir avant tout serviteur de Christ. C'est la volonté de Dieu qu'il vous importe de connaître et d'accomplir. En servant des hommes, faites-le de bon cœur, mettez-y toute votre âme et votre affection, comme si votre service s'adressait au Seigneur seul. Alors il sera pour vous une source de joie. On voit que le message de l'Évangile donne à l'ouvrier une dimension nouvelle dans son travail, en lui faisant découvrir que son travail est un service qui s'adresse également au Seigneur. On peut constater que Paul n'essaie pas de modifier l'ordre social en prêchant la rébellion, la violence ou même la subversion. Le mot d'ordre est « soumission et obéissance ». Il est évident que ces textes posent des problèmes en nos temps où l'on semble ne connaître que la contestation et la violence, les menaces et les coups pour faire valoir ses droits. Peut-être parce qu'il semble aussi que ces moyens soient les seuls qui produisent des résultats. Sur ce point, il faut dire que si les Écritures n'ont jamais justifié la violence, elles n'empêchent toutefois pas de se défendre, mais il y a une manière chrétienne de se défendre et de lutter contre l'injustice. Il y a une attitude chrétienne qui s'impose des limites. Si le chrétien prend le parti de se soumettre, au lieu de verser dans un regrettable excès, ce n'est pas par faiblesse, et son obéissance n'est pas servilité. Mais le texte continue en s'adressant au patron. Quant à vous, patron, agissez suivant les mêmes principes. Soyez aussi juste et conscient de vos responsabilités envers ceux qui vous servent, que vous l'attendez d'eux à votre égard. Ne vous targuez pas de vos droits ou de votre pouvoir. N'abusez pas de votre autorité. Laissez tomber menaces et représailles. Souvenez-vous toujours que vous avez dans les cieux un maître commun qui juge impartialement. Sur ce sujet, certains patrons devraient lire également le passage de l'épître de Jacques qui s'indigne violemment contre ceux qui font fortune en exploitant honteusement leurs ouvriers. Vous voyez, chers amis, combien ces textes sont vivants et actuels. Notons encore quelques recommandations qui concernent la vie conjugale et familiale. Cette fois, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie. Le statut de la femme chrétienne n'est pas humiliant ni inférieur, comme certains le pensent. Elle est digne d'amour. Et les paroles de l'apôtre Paul, écrites il y a 20 siècles environ, sont pleines d'une profonde tendresse. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elles sont lues lors de presque toutes les cérémonies de mariage. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Puis viennent des conseils aux enfants et aux parents. Quant à vous, les enfants, puisque vous êtes en communion avec le Seigneur, pour vous, cette subordination signifie que vous obéissiez à vos parents comme au Seigneur lui-même. C'est là ce qui est juste, bon et conforme à sa volonté. Vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive, afin qu'ils ne conçoivent pas d'amers ressentiments contre vous. Éduquez-les comme le Seigneur nous éduque, en vous inspirant de ses conseils pour avertir et reprendre. Élevez-les dans une discipline aimante que le Seigneur puisse approuver. Ces textes se passent vraiment de commentaires. Ils sont toujours d'actualité car ils parlent à cette partie de l'homme qui n'a pas changé. Depuis le commencement, à travers les siècles, l'homme a toujours été à la recherche du bonheur. Il a toujours eu besoin d'aimer et d'être aimé. Toujours eu soif de vérité, de droiture, de justice, de sécurité, capable de rire, de pleurer, d'espérer. Le cadre dans lequel il vit a changé et changera encore. Mais l'homme, au regard de Dieu, sera toujours essentiellement le même. Ces textes nous l'ont montré, puisqu'ils s'appliquent aussi bien aux contemporains de Néron qu'à nous, gens du XXe siècle. Peut-on vivre au XXe siècle selon des principes édictés au premier siècle de notre ère? Mes amis, il faut prendre au sérieux ce message qui nous vient de Dieu. Notre société va à la dérive aujourd'hui parce qu'elle s'écarte de plus en plus de la loi de Dieu, sous prétexte qu'elle veut se libérer des normes anciennes pour évoluer. Elle bafoue et piétine les valeurs éternelles, fait perdre à l'homme le sentiment précieux de son âme, indispensable à son équilibre. Elle appelle bien ce que la Bible appelle mal, et mal ce que Dieu a déclaré bien. Nous avons besoin de revenir à la source, ce qui n'implique pas, loin s'en faut, la négation de tout progrès, et nous efforcer de restaurer dans notre propre vie cette loi éternelle de Dieu, non seulement dans ces domaines que nous venons de voir brièvement, mais aussi dans tous les autres domaines où Dieu se prononce. Pour cela, il faut résister au souffle ambiant et accepter de faire parfois figure de déséquilibré ou d'attarder dans un passé superstitieux. Comment conclure cette étude au sujet beaucoup trop vaste, autrement que par ces paroles de Jésus ? Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande.